Il y avait plus de lumière dans le salon qu'en dessous dans la grande salle à manger. Maccaleb décida que ce serait là qu'il travaillerait. Et d'ailleurs, c'était aussi dans cette pièce qu'il avait une télé et un magnétoscope encastrés dans un meuble élément. Il débarrassa la table de la cambuse, l'essuya avec une éponge et une serviette en papier et y posa la pile de rapports que Winston lui avait donnée. Il sortit ensuite un bloc-notes grand format et un crayon aiguisé du tiroir de la table à cartes et les rapporta dans la pièce. La meilleure façon de procéder était encore de lire tous les documents dans l'ordre chronologique, ce qui signifiait qu'il fallait commencer par l'affaire Cordell. Maccaleb repassa la pile en revue et mit de côté tout ce qui concernait l'assassinat de Gloria Torres. Puis il prit le reste et en fit plusieurs tas. Dans le premier, il mit les premières constatations et interrogatoires et l'inventaire des pièces à conviction. Dans le second, les comptes rendus des interrogatoires supplémentaires. Dans le troisième, les pistes qui ne menaient nulle part. Et dans le dernier, des rapports divers, genre données complémentaires et résumés hebdomadaires. À l'époque où il travaillait pour le FBI, il avait coutume de débarrasser complètement son bureau et d'y étaler tous les documents d'une affaire, celle-ci pouvant lui arriver de n'importe quelle autorité policière de l'ouest des États-Unis. Épais ou mince, on lui expédiait toutes sortes de dossiers, mais il demandait toujours qu'on lui envoie la bande des premières constatations. Voir les lieux mêmes où le crime s'était produit le fascinait et dégoûtait tout à la fois. Seul dans son bureau, son veston accroché au bouton de la porte et son arme enfermée dans son tiroir, il lisait tous ses documents et dans l'instant était pris de colère et du désir de se venger. Plus rien ne comptait, hormis ce qu'il avait sous les yeux, et c'était là, à son bureau, qu'il travaillait le mieux. Si l'agent de terrain Terry Maccaleb se débrouillait correctement, le chercheur qu'il était aussi n'avait pas d'égal et ne pouvait s'empêcher d'éprouver le grand frisson chaque fois qu'il recevait un paquet de la police. Alors, la chasse au mal était de nouveau ouverte. Il se mit à lire et encore une fois sentit ce grand frisson le parcourir. Famille, belle maison et voiture, James Cordell s'en tirait plutôt bien dans la vie. En bonne santé physique, il avait un travail qui rapportait assez pour que son épouse puisse s'occuper à plein temps de leurs deux filles. Ingénieur consultant auprès d'une société commissionnée par l'État pour veiller à l'intégrité structurelle du système d'aqueduc, qui partant des montagnes du centre du pays transportait l'eau jusqu'au réservoir du sud de la Californie, il habitait à Lancaster, au nord-est du comté de Los Angeles, et pouvait ainsi rejoindre tous les points du réseau hydraulique en moins d'une heure et demie de voiture. Le soir du 22 janvier, il rentrait chez lui après avoir passé sa journée, et elle avait été longue, à inspecter la portion Lone Pine de l'aqueduc en ciment. C'était jour de paye. Il avait décidé de s'arrêter à la Regional State Bank, qui se trouvait à 1500 mètres de chez lui. Il y avait déposé son chèque et s'était aperçu qu'il avait besoin de liquide. La balle qu'il avait reçue dans la tête l'avait laissé pour mort avant même que le distributeur ait fini de lui cracher son dû. C'était son assassin qui avait pris les billets tout neufs au fur et à mesure qu'il sortait de la machine. En lisant les premiers rapports de police, Maccaleb comprit vite que la presse n'avait eu droit qu'à une version édulcorée de l'histoire. Les faits décrits dans l'article que Keisha Russell lui avait lu la veille ne correspondaient pas terme à terme avec ce qu'il lisait dans son dossier. D'après le journal, le cadavre de Cordell avait été retrouvé un quart d'heure après l'agression. D'après la police, au contraire, il avait été découvert presque immédiatement par un autre client, celui-ci entrant dans le parking de la banque au moment même où un autre véhicule, appartenant à l'assassin, c'était probable, le quittait à vive allure. James Noon, le témoin, avait rapidement appelé la police en se servant de son téléphone de voiture. L'appel ayant été relayé par un transpondeur cellulaire, l'opératrice de police secours n'avait pu savoir automatiquement de quel endroit James Noon lui téléphonait. Elle avait dû procéder manuellement pour y parvenir et avait malheureusement interverti deux numéros de l'adresse que Noon lui avait donnée en lui demandant d'envoyer une équipe médicale d'urgence. Dans sa déposition, Noon avait déclaré avoir regardé désespérément une ambulance qui, toutes sirènes hurlantes, fonçait vers un endroit situé 7 rues plus loin. Il avait été obligé de rappeler et de tout réexpliquer à une autre opératrice. Lorsque la deuxième ambulance était enfin arrivée, James Cordell avait cessé de vivre. En lisant ses rapports, Maccaleb eut bien du mal à déterminer si ce contretemps s'était avéré fatal. La blessure que Cordell avait reçue à la tête était d'une telle gravité que, même si les secours étaient arrivés 10 minutes plus tôt, cela n'aurait probablement rien changé au résultat. Sa mort était pratiquement inéluctable. Il n'empêche, le cafouillage de police secours était très exactement ce dont les médias aimaient faire leur chou gras. Au bureau du shérif, quelqu'un, le patron de Jay Winston sans doute, avait donc décidé de taire ce renseignement. Ce petit micmac n'avait en soi guère d'importance aux yeux de McCaleb, l'intéressant étant qu'il y avait eu un témoin et que celui-ci avait décrit le véhicule du tueur, au moins en partie. À croire sa déposition, Noon s'était en effet quasiment fait rentrer dedans par une voiture au moment où il pénétrait dans le parking de la banque. D'après lui, il s'agissait d'une Jeep Cherokee noire avec de nouvelles finitions. Il n'avait vu le chauffeur qu'une fraction de seconde, un homme de type caucasien avec des cheveux gris ou une casquette de même couleur. L'équipe des premières constatations ne mentionnait la présence d'aucun autre témoin. Avant de passer au rapport complémentaire et d'étudier les résultats de l'autopsie, McCaleb décida de visionner les vidéos. Il alluma le poste de télévision et le magnétoscope et commença par la bande de la caméra de surveillance du distributeur. Comme dans l'enregistrement réalisé à la supérette de Sherman Way, le bas de la bande était occupé par les indications chronométriques. Les vues avaient été prises à l'aide d'une caméra équipée d'un fisheye qui déformait les images. L'homme censé être James Cordell entre dans le champ et glisse sa carte de retrait dans la fente. Tout près de la caméra, son visage masque pratiquement tout le reste de l'image. C'est là un défaut de conception, à moins que la caméra ait pour fonction non pas d'identifier les voleurs éventuels, mais de filmer des fraudeurs à la carte.